jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour ouvrir toute grande nos oreilles aujourd'hui, à l'écoute d'un élément fondateur de notre humanité, essentiel à notre développement et à notre évolution, c'est la musique, bien plus qu'un simple passe-temps qui nous fait du bien. Pourquoi la musique est-elle indispensable au bon fonctionnement et au développement de notre cerveau? Comment, dès le ventre maternel, sommes-nous portés par le son? Pourquoi tout au long de notre existence et jusqu'à la fin, la musique joue le jeu de nos neurones, allant jusqu'à nous réparer, nous redonner l'humanité enlevée par la maladie ou la dégénérescence. Voilà ce que nous vous proposons de découvrir avec nos invités, les chercheurs, musiciens, Emmanuel Bigan et Barbara Tillman, respectivement professeurs en psychologie cognitive et directrices de recherche en neurosciences, qui nous font partager leurs formidables recherches et découvertes sur le rôle de la musique dans un ouvrage inouï à tous les sens du terme, la symphonie neuronale. Autour de la question pourquoi la musique est indispensable au cerveau, bienvenue pour en prendre toute la mesure, en commençant par trois notes pour un cerveau, extrait d'une pièce de théâtre en gestation, coécrite par nos invités, dans une mise en scène de Pauline Hercule et Pierre Germain de la compagnie Germe 36.
La musique rentre dans nos vies tout à fait naturellement, puisque nous sommes biologiquement programmés pour l'humain né et meurt musical.
Tous les êtres humains?
Oui, bien sûr, tous les êtres humains. Et même avant la naissance, le fœtus analyse la musicalité des sons pour comprendre l'environnement social avec lequel il va devoir interagir. Et comme cette interaction est vitale pour lui, il investit des neurones pour cela. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les cultures du monde, il y a des musiques spécialement dédiées au bébé. Le fœtus identifie la musicalité comme une structure pertinente pour sa survie.
On en redemande hein, partout et à tous les âges des berceuses. Bonjour Barbara Tillman.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel Bigan.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en ligne en direct avec nous pour partager non seulement vos berceuses, vos musiques, vos chansons, mais surtout vos recherches et toutes les découvertes majeures en neurosciences musicales, en neurosciences affectives, sur le rôle essentiel, le pouvoir de la musique dans nos vies et dans la survie, hein, dans l'évolution de notre humanité carrément. Vous venez d'écrire à quatre mains, Barbara et Emmanuel, aux éditions Humaine Science, la symphonie neuronale, sous-titrée « Pourquoi la musique est indispensable au cerveau ?» Un ouvrage qui devrait faire date et pour cause. Emmanuel Bigan, vous êtes toujours musicien d'orchestre, professeur de psychologie cognitive, chercheur CNRS, spécialisé dans l'étude des processus cognitifs impliqués dans la perception de la musique, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, passionnant, sauf que cette fois vous allez encore plus loin. Vous nous montrez, preuve scientifique à l'appui, que la musique est une nécessité biologique pour l'être humain, carrément Emmanuel.
Oui, d'une certaine façon, c'est ce qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage, c'est que si on ne comprend pas ce fondement biologique, on va avoir du mal à comprendre tous les effets surprenants que l'on peut constater dans la littérature. Alors bien sûr, lorsqu'on dit que la musique est une nécessité biologique, c'est pas exactement au même titre que de boire ou de manger. Mm-hmm. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais comme vous l'avez entendre dans le début de la pièce, la caractéristique biologique fondamentale du bébé humain, c'est d'être immature et de devoir être pris en charge par son environnement. Et pour lui, c'est une question de survie. Mmh. Donc c'est absolument indispensable d'entrer en contact et de créer un lien fort avec les personnes qui s'occupent de lui. Et ce que le bébé identifie, même le fœtus, bien avant sa naissance, donc que cette musicalité est un élément d'attachement qui est extrêmement efficace pour attirer l'attention des autres et aussi pour émettre des demandes et des besoins envers les autres. Donc l'origine de l'histoire, elle est là.
elle est vraiment là, au tout début de notre vie, pour faire lien. Grâce à la musique, on va voir que l'origine de l'histoire est jusqu'à la fin, hein, finalement. Eh ben, elle est là aussi dans la musique, et c'est même ça, on va y revenir, qui vous a poussé à écrire cet ouvrage, hein, autour de cette grande question, finalement. Qu'est-ce qui relie un prématuré? On va voir qu'ils arrivent à survivre grâce à la musique, et un malade Alzheimer qui a perdu même les mots. Barbara Tillman, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, médaille d'argent, hein, du CNRS en 2016. Vos travaux ont contribué à révéler le rôle de la musique dans le traitement de certains troubles cognitifs. Est-ce qu'on pourrait dire que la musique, alors elle construit, hein, pratiquement, enfin elle aide à construire le cerveau, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle construit et qu'elle répare finalement au cours de la vie les humains que nous sommes?
Oui, on peut le formuler comme ça. Grâce aux connaissances scientifiques issues des neurosciences en général, et puis maintenant le nouveau domaine de neurosciences de la musique, on a pu se baser sur les résultats des réseaux neuronaux impliqués dans le traitement de la musique par rapport à d'autres langages, notamment la mémoire, même la motricité, et à tout un ensemble de pistes, de perspectives de réhabilitation qui se sont développées ou renforcées ce qui existait. Dans différents domaines. Pour le langage, vous avez mentionné, donc il y a soit l'aphasie après une lésion cérébrale pour les enfants dyslexiques, donc sans lésion évidemment, mais un trouble neurodéveloppemental du langage, ou des troubles moteurs après un AVC par exemple.
Et la musique à chaque fois peut permettre de faire repartir, de réveiller, on va y revenir, quand le cerveau vacille, hein, c'est un de vos chapitres, la musique au fond pourrait nous remettre sur les rails. Pourquoi avez-vous donné, Emmanuel Bigand et Barbara Tillman, ce titre « La symphonie neuronale » à votre ouvrage? On va y venir, hein, mais dites-nous pourquoi ce titre magnifique, mais parce qu'il y a une correspondance entre les deux, c'est ça?
Oui, en fait, la musique, c'est un stimulus auditif, donc on l'entend par les oreilles, mais elle n'est pas seulement traitée par le cortex auditif comme un premier relais, mais elle implique dans le cerveau tout un réseau neuronal qui active différentes régions du cerveau qui sont impliquées dans d'autres activités cognitives, perceptives ou motrices. Donc vous n'avez pas seulement le cortex auditif, mais le cortex frontal qui est évidemment aussi beaucoup impliqué dans la mémoire, le cortex moteur avec un couplage très fort entre l'audition et la motricité, mais aussi des régions qui sont au centre du cerveau, la ligne médian, dont on va parler peut-être plus tard, qui sont des régions cérébrales qui résistent le plus longtemps dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, et surtout ces différentes structures neuronales, ils se mettent en concert, entre guillemets, ensemble, pour créer, ce qui donne le titre de l'ouvrage, une symphonie neuronale. C'est-à-dire que traiter la musique, la percevoir ou la produire, ou tout simplement juste la percevoir, met en jeu un réseau neuronal complexe. Et qui peut du coup avoir des bénéfices comme ce qu'on a amorcé avant dans certaines pathologies également.
Ouais, la musique nous meut, nous émeut, nous met en mouvement tout notre corps, presque tous nos sens autour de la question pourquoi la musique est indispensable à notre cerveau, comment a-t-elle construit donc et accompagné le développement et l'évolution de notre humanité depuis les origines. Je propose de remonter le temps jusqu'à notre préhistoire commune, hein, pour écouter une des toutes premières musiques de l'humanité, bien sûr c'est pas un enregistrement, ça n'existait pas il y a plus de 30 000 ans. Musique jouée sur une flûte en os, exhumée en Dordogne, fabriquée par les Aurignaciens, il y a donc plus de 30 000 ans. Les premières flûtes de l'humanité, il y a aussi eu les premiers lithophones. La musique est aux origines même de notre humanité collective. On a parlé de l'humanité au sens individuel, mais de notre humanité. Emmanuel Bigand.
Oui, là, ce qui est remarquable avec ces flûtes, elles sont datées de 40 000 à 60 000 ans avant Jésus-Christ, c'est qu'elles sont évidemment très anciennes, mais leur caractéristique structurelle est très surprenante, parce que si vous entendez, là vous avez juste entendu un petit passage, mais sur d'autres instruments, ce qu'on constate, c'est que on a des gammes qui sont produites par ces flûtes, qui correspondent à des gammes pentatoniques qui sont tout à fait encore pertinentes aujourd'hui. Donc ça laisse penser que nos lointains ancêtres n'avaient pas creusé ces trous n'importe où sur l'os. Ils avaient une idée très précise des effets sonores qu'ils souhaitaient avoir. Et donc, il y avait un savoir-faire, une sorte de lutherie artisanale qui était très développée. Et si vous tenez compte de tout ce que l'on sait sur le temps nécessaire pour développer un savoir-faire, par exemple, si vous pensez aux outils, les bifaces, c'était là le temps que ça a pris pour que les humains le mettent en place, on peut remonter en arrière et se dire que l'intérêt pour la musique est probablement extrêmement ancien, beaucoup plus ancien que les instruments qu'on a retrouvés, parce que sinon on n'aurait pas eu un savoir-faire aussi spécialisé. Donc ce qui nous laisse penser que probablement la musique est une des activités extrêmement anciennes et qui n'a pas du tout attendu d'autres formes d'expression artistique pour se manifester. Donc on peut remonter à 200 000 ans sans trop de difficultés si on suit les raisonnements de nos amis spécialistes de la question.
Et si on suit leur raisonnement, le raisonnement d'autres chercheurs aussi qui travaillent sur la question du langage et de la parole, la musique serait peut-être aussi à l'origine du langage, puisqu'on va y venir aussi, c'est ce que vous observez chez les bébés, chez les enfants, c'est comme ça qu'on apprend à parler. Peut-être que les hommes se sont mis à parler après avoir fredonné, chanté, on peut le dire comme ça.
Alors ça, c'est évidemment une grosse question pour laquelle on a des arguments, mais qui restent dehors de la spéculation, parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps pour savoir, effectivement, est-ce que quel lien y a-t-il entre l'apparition de la musique et l'apparition du langage? Il y a un peu deux grandes théories qu'on rappelle dans le livre, d'ailleurs. Il y a ceux qui pensent que la musique dérive du langage, donc le langage était premier et la musique est une sorte de pantomime du langage, et il y a d'autres qui pensent que il y a eu d'abord un langage relativement simple, qui permettait de communiquer des états émotionnels, des états psychologiques, qui étaient le langage de type musical, et qu'ensuite ce langage a évolué vers un langage plus symbolique, plus complexe, qui est la langue parlée que nous utilisons actuellement. Remonter l'histoire, c'est difficile, mais regarder l'ontogénèse, c'est possible, donc il n'est pas difficile de voir chez le bébé humain qu'est-ce qui se manifeste en premier. Hein, voilà, je pense que c'était le sens de votre question.
Et exactement, alors qu'est-ce qui se manifeste en premier? Pourquoi le bébé, c'est le titre d'un de vos chapitres, n'est-il musical?
Alors, ça c'est une question intéressante, il faut y répondre en deux temps. À la fin du siècle dernier, on a fait des tas d'études sur les capacités perceptives du nouveau-né, alors pas simplement dans le domaine de la musique, mais aussi dans le domaine du langage. Et ce dont on s'est rendu compte, à notre grande surprise, c'est que le bébé humain, dès les premières semaines de sa vie, on pourrait même dire dès les premiers jours, c'est déjà un petit bébé, un petit musicologue en herbe. En fait, il est capable de percevoir des structures musicales, musicologiques, extrêmement sophistiquées.
De faire la différence, il y a des expériences où ils têtent plus ou moins, enfin même les prématurés reprennent leur succion, arrivent à s'alimenter en écoutant certaines musiques, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, par exemple, il y a une étude qui était tout à fait remarquable qui montre que des nouveau-nés qui écoutent des chansons, des airs connus qui leur ont été présentés avant la naissance, peuvent détecter des changements de notes, des petites erreurs de notes. Donc, leur cerveau réagit à des changements de notes. Ça veut dire qu'ils ont une mémoire des intervalles musicaux extrêmement sophistiqués. La question, c'était de savoir, mais à quoi ça sert au bébé humain si jeune d'avoir des compétences pour la musique? On pouvait comprendre de voir des compétences comparables pour le langage, parce que le langage est un vecteur de communication humaine, évident. Mais pour la musique, ça semblait plus étrange, surtout si on gardait comme idée que la musique était une activité soit de loisir, soit de culture. La sensibilité pour la musique devrait se développer beaucoup plus tard. Alors pourquoi elle était observée si précocement? Ça a été une des grandes questions. Et évidemment, on a proposé des réponses que nous reprenons dans le livre.
Notamment des réponses sur le lien comme déclencheur du langage, déclencheur de l'attachement, et sur une sorte de cercle vertueux, si j'ai bien compris, c'est ça, de écouter de la musique, fabriquer des neurones, le bébé fabrique des neurones pour écouter de la musique parce que c'est ce qui le relie aux autres.
Oui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que le bébé identifie dans la musicalité des sons un vecteur d'attachement humain qui est vital pour lui. Donc, de fait, il va engager des neurones, investir des neurones, si vous voulez, pour traiter de cela. Mais plus il a de ressources cognitives pour traiter cela, et plus ce langage de communication peut devenir sophistiqué. Et ça, ce sont toutes les études magnifiques que Maya Grattier, par exemple, a faites sur les interactions de la maman avec son bébé, les interactions de type chanté, de type musical, où on voit que plus la compétence se développe, plus le lien affectif se crée avec la maman et plus le bébé va utiliser la musique pour communiquer ses états. Donc en fait, on a un cercle vertueux qui s'établit, plus de ressources cognitives pour avoir une meilleure aisance affective, socio-affective, et cette meilleure aisance socio-affective, eh bien, en retour, engage le système à engager plus de ressources. Et donc, comme ceci, petit à petit, la compétence se développe.
Et c'est pour ça que les mamans l'ont bien compris, hein, partout dans le monde entier, elles chantent des berceuses à leurs petits. Vous montrez aussi certaines études qui montrent que les nourrissons, eux aussi, modulent leurs pleurs, hein, que ça peut devenir plus ou moins musical. Et puis, dans le monde entier, on a chanté des berceuses pour calmer, apaiser les petits, et puis des comptines pour les dynamiser un peu, c'est ça ?
Oui, ça c'est l'étude qui a été faite notamment par ma collègue Laurel Trenor et Sandra Treub au Canada. Ils ont montré que dans toutes les cultures du monde qu'ils ont étudiées, en tout cas, on a des musiques spécialement dédiées aux bébés, que ces musiques ont des fonctions calmantes, berceuses ou des comptines pour la stimulation. Et qui plus est, ces berceuses présenteraient, alors on va mettre un petit conditionnel pour ne pas vexer nos amis ethnomusicologues, mais présenteraient des caractéristiques structurelles très semblables. Donc on aurait des universaux pour la musique, mais dans ces musique pour les tout jeunes bébés. Évidemment, les jeunes bébés sont un peu pareils dans toutes les cultures du monde lorsqu'ils arrivent quand ils viennent de naître.
Et la musique s'adresse bien à notre humanité commune autour de la question pourquoi est-elle indispensable à notre cerveau ? On l'a compris, à la fois nécessité biologique et lien, hein, bien sûr. Comment nous relie-t-elle les uns aux autres ? La musique comme marqueur d'attachement. Allez, on se fait tous du bien avec une berceuse qui marche partout, pour petits comme pour grands. Russian Lullaby, berceuse russe, interprétée par Ella Fitzgerald sur RFI.
Every night you hear her croon a Russian lullaby.
Fitzgerald sur RFI, Russian Lullaby. Voilà une berceuse qui nous fait du bien, mais pas seulement. Autour de la question pourquoi la musique est indispensable au cerveau, nous découvrons avec nos invités la chercheuse en neurosciences Barbara Tillman et le professeur de psychologie cognitive Emmanuel Bigan, tous deux chercheurs et musiciens. Pourquoi et comment la musique est une nécessité biologique ? C'est elle qui nous fait humains, en lien, avant même notre naissance, hein, dès le ventre maternel et jusqu'au bout. C'est une symphonie neuronale qui se joue dans notre cerveau, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Emmanuel et Barbara, dans lequel vous consacrez évidemment un chapitre, non pas à l'éducation musicale, mais à musicaliser l'éducation. Quelle différence ? Emmanuel Bigan, peut-être ?
Oui, alors, ben oui, l'éducation musicale, c'est l'éducation d'une activité qui est la musique, pour apprendre à faire de la musique, ce qu'on peut avoir au conservatoire. L'éducation, musicaliser l'éducation, c'est autre chose, c'est-à-dire essayer d'introduire dans l'éducation générale une dimension de musique, en fait. C'est-à-dire non pas apprendre la musique pour elle-même, mais apprendre à se développer par l'activité musicale. Donc, c'est pas éduquer pour apprendre la musique, mais c'est éduquer pour apprendre par la musique. Donc c'est un petit peu différent.
Et qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend par la musique ? Parce que là aussi, vous ouvrez des pistes affectives extraordinaires.
Oui, alors c'est le contact à l'autre qui change, en fait. Parce que lorsque vous chantez à quelqu'un, ou lorsque vous faites de la musique avec quelqu'un, vous ouvrez une sorte de porte émotionnelle. Et ce que l'on développe dans ce chapitre-là, c'est qu'en fait, très souvent dans l'éducation, l'adulte n'ouvre pas cette porte émotionnelle à l'enfant, parce que lui, il sait, et il est dans un rapport de pouvoir, en fait, de savoir. Alors que lorsqu'on fait de la musique avec l'autre, on est dans un rapport d'égalitaire. On doit jouer, on doit se synchroniser, on doit s'harmoniser, et le fait qu'il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre, il faut être à l'écoute de l'autre. Et ça, ça change beaucoup. Donc musicaliser l'éducation, c'est l'idée de dire que si on introduit la musique dans l'éducation de façon plus forte peut-être que ce qu'elle est présentément, on va rechanger le contact affectif que l'éducateur a avec l'enfant, et on va aussi avoir des moyens de développer les compétences cognitives de l'enfant. Et c'est encore un cercle vertueux, parce qu'en en proposant cette activité musicale à l'enfant, le cerveau de l'enfant va se développer, et en faisant de la musique avec l'enfant, le lien socio-affectif entre le professeur et l'élève vont se modifier également.
Puis ça fait surgir aussi, et vous le dites bien, des émotions, hein. Ça fait du bien d'écouter parfois, par exemple, une chanson triste ou une musique triste, ça permet de rentrer en contact aussi avec ses propres émotions.
Alors ça permet de rentrer en contact avec ses propres émotions, ça permet de moins être prisonnier de ses propres émotions, de pouvoir les réguler, et par les temps qui courent, c'est pas si simple de réguler ses émotions, et notamment chez les enfants, on sait que le cerveau a des structures pour contrôler les émotions, c'est le cortex orbitofrontal, peut-être Barbara en dira un mot tout à l'heure, qui devient à maturité et qui prend du temps pour être à maturité. Et donc tant que ce cortex n'est pas vraiment mature, l'enfant a du mal à gérer ses émotions, et donc il est essentiel que la musique l'aide pour faire cette gestion. Et comme gérer ses émotions dans le milieu scolaire, c'est très important, il est, à mon sens, très essentiel aussi que les enseignants puissent faire de la musique avec les enfants. Alors, pour être honnête, ça se fait pas mal dans les petites classes. En maternelle, ça marche bien. Et puis, dès qu'on arrive vite dans les classes sérieuses, où on commence à faire des choses sérieuses, on perd ce contact-là. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il faudrait continuer.
Barbara Tillman, vous nous expliquez ce qui se passe, finalement, un peu dans le cerveau. Enfin, pourquoi la musique est tellement en lien, on le sait tous, on le sent tous, avec nos émotions. Qu'est-ce qui se passe ?
Traiter la musique, comme on a évoqué tout à l'heure, évoque comme une symphonie neuronale dans le cerveau, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas juste au traité le cortex auditif, mais active le réseau émotionnel, mais aussi à impliquer dans d'autres activités cognitives et également la motricité. Donc, peu au cerveau, si on peut dire, procurer des bénéfices pour d'autres activités cognitives. Et c'est ça que je voulais ajouter dans l'intervention qu'Emmanuel vient de faire sur musicaliser l'éducation avec tous ses avantages socio-affectifs. Je pense qu'on peut renforcer aussi les bénéfices pour le développement cognitif. Juste prendre un exemple, il y a des recherches maintenant qui ont montré des liens entre les capacités et les performances individuelles des élèves sur le traitement du rythme, le traitement temporel des informations, même non verbales, comme dans la musique par exemple. Mais il y a un lien entre ce niveau de performance et des capacités langagères. Si c'est le traitement phonologique ou la lecture, le traitement grammatical, etc. Donc on peut l'observer dans la population des enfants à développement typique, donc une population saine, si on veut le décrire comme ça. Donc on peut le voir avec les variations interindividuelles, ou après, pour revenir à ce qu'on a dit tout au début de l'émotion, l'exploiter pour les populations à déficit, comme par exemple les enfants avec des troubles développementaux du langage. On a pu observer qu'eux, ils ont un déficit dans ce traitement temporel, mais si on arrive à le stimuler par des exercices, par une activité musicale ou musicalisée, ça peut à nouveau avoir des bénéfices sur le traitement langagier. Cette musicalisée, l'éducation, il y a le socio-affectif bien sûr, mais il y a le cognitif aussi.
Le cognitif, la mesure du temps aussi, de la succession. Enfin, on se rend bien compte que la musique ouvre. Je propose, parce qu'il y a beaucoup de projets dans le monde qui ont existé pour justement musicaliser l'éducation, mais aussi donner cette éducation musicale à tous, hein, et même aux plus défavorisés. Et ben, le plus célèbre, c'était le fameux orchestre vénézuélien El Sistema, hein, qui a vraiment inventé, démocratisé la musique. Ils ont monté de nombreux projets pour partager avec tous. Je propose d'écouter un extrait, cette fois-ci du côté français, de La Pavane, de Gabriel Fauré, interprété par le chœur d'enfants de l'orchestre Demos, des Yvelines, qui ont été invités à l'Opéra Royal de Versailles, c'était le 29 mai 2019. Magnifique, cet orchestre Demos des Yvelines qui regroupe donc des enfants qui on a enseigné la musique de tout niveau, de tout milieu. Ça développe évidemment la confiance en soi aussi, hein, et ça dure, j'imagine, tout au long de la vie, que de chanter en chœur.
Oui, bien sûr, ces orchestres sont magnifiques. Je crois que c'est très émouvant de voir des enfants faire de la musique, que ce soit par le chant ou par les instruments, car il y a une capacité un naturel, en fait, de cette expression musicale qui est tout à fait évident. Et je pense que c'est très important que des organisations comme Demos ou encore Orchestre à l'école reprennent ce qui a toujours existé autrefois, qui existait sous une autre forme, c'était les harmonies municipales. Mais et là, il y a toujours eu la possibilité pour les jeunes enfants d'avoir un accès direct démocratique, en quelque sorte, parce que Demos c'est ça, hein, le projet, un accès démocratisé à la musique. Et donc ça, c'est véritablement important, ça donne confiance, ça développe les activités cognitives, ça développe une plasticité cérébrale par le phénomène de symphonie neuronale qui a été expliqué tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment essentiel, parce que ça donne finalement aussi beaucoup de confiance aux enfants d'être capables de s'engager dans une activité, d'être en interaction avec les autres, en interaction avec les adultes, et de produire une activité qui, au final, va avoir un impact émotionnel sur le groupe qui est très grand.
Et oui, ça joue. Alors, ça joue à tous les âges, hein, on l'a dit. Barbara Tillman, vous avez beaucoup travaillé aussi sur les troubles cognitifs qui peuvent être peut-être pas réparés, mais en tout cas améliorés par la pratique de la musique. On le sait aujourd'hui, les malades d'Alzheimer, par exemple, qui ont perdu la mémoire et même les mots pour le dire, sont capables de chantonner, d'apprendre des chansons, de se mouvoir, de bouger. J'imagine que vous avez vu cette extraordinaire vidéo virale, hein, sur Internet, d'une ancienne ballerine décédée aujourd'hui, mais atteinte d'Alzheimer, et qui se remet à danser exactement comme elle le faisait sur scène il y a 50 ans, depuis son fauteuil roulant, avec les mêmes gestes, le lac des cygnes de Tchaïkovski. On vous met cette vidéo, chers amis auditeurs et auditrices, pour que vous la voyez, parce qu'elle est extraordinaire, et parce que Barbara Tillman, elle illustre ce que vous nous disiez, c'est le lien avec la motricité. Tout se réveille, en fait, chez cette femme, ancienne grande danseuse, qui est dans son fauteuil roulant et qui n'a plus ni sa tête, ni vraiment l'usage de son corps.
Oui, c'est la musique qui arrive à entrer et à réveiller dans un certain sens la mémoire épisodique, la mémoire d'identité, la mémoire autobiographique, dans cet exemple très touchant de la danseuse, et qui du coup pour elle déclenche les souvenirs jusqu'au moment à réévoquer les gestes. Oui.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au fond elle récupère sa mémoire, je ne sais pas si elle en est consciente ou pas, je ne sais pas si on est à ce niveau-là, mais en tout cas ça rentre dans son corps et elle revit, on la voit revivre, danser et pas seulement mimer, hein, revivre ce qu'elle dansait 50 ans auparavant. Ça se produit dans d'autres maladies, pour d'autres troubles cognitifs.
Bon, la démence, l'Alzheimer avec la mémoire épisodique, ça c'est, je pense que l'exemple le plus parlant. Il y a d'autres cas qui ont été décrits, le neurologue Oliver Sacks, et oui. Puis il y avait un documentaire.
Musicophilia.
Life Insight, oui, exactement, ça c'est son livre, oui, et puis où on voit aussi un patient âgé qui, en écoutant de la musique, sort de son mutisme et revit de l'émotion. Donc on a pu l'étudier également dans des études pour voir quels sont les rappels des souvenirs de la mémoire autobiographique et épisodique, si c'est en lien avec la musique, comment on peut re-atteindre ce sentiment, même d'identité de soi, grâce à cette entraide musicale. Et comme j'ai évoqué au début, il y a l'hypothèse que peut-être parce que les régions au centre du cerveau, le long de la ligne médian, résistent le plus longtemps à la maladie et sont impliquées dans l'écoute de la musique, l'émotion musicale. Peut-être il y a le lien là qui, du coup, bah, nous amène aussi à nouveau vers la force du réseau global ou de la symphonie neuronale lors de l'écoute de la musique.
De la symphonie neuronale, hein, pour reprendre le titre de votre ouvrage. Je vous tout de suite de découvrir un formidable travail mené, qui illustre exactement ce que vous venez de dire, mené par une association espagnole, Musica para Despertar, musique pour réveiller dans un EHPAD pour personnes atteintes d'Alzheimer. C'est dans la banlieue de Grenade, traduction signée Inès Edel Garcia.
Amapola, ¿cómo puedes tú vivir?
Dans son casque audio, cette vieille dame entend une musique qu'elle avait l'habitude d'écouter avant de tomber malade. À Grenade, un groupe de jeunes psychologues et musiciens travaille en ce moment sur le projet Musique pour réveiller, une expérience qui consiste à contrôler l'agitation des malades d'Alzheimer avancés grâce à la musique que chaque patient a pu écouter par le passé.
On s'est demandé si, avec des casques de musique, on arrivait à provoquer une sorte de réveil chez le patient, ces changements de comportement qu'on n'arrivait justement pas à susciter avec d'autres types de rapprochements cognitifs.
Les chansons réactivent des souvenirs dans la mémoire du patient, des souvenirs qui étaient bien là, mais qui étaient endormis, vous voyez ?
Grâce à quelques casques audio et un appareil MP3, cette équipe parvient donc à gérer l'agressivité, les plaintes, le pessimisme et la tristesse des patients. Cette méthode permet aussi de réduire l'usage des médicaments et dans le même temps, leurs effets secondaires qui peuvent être importants.
On contrôle l'agitation. Ça aide la personne à être plus reposée, plus tranquille.
Ces jeunes professionnels et les proches des malades ont ainsi pu observer des améliorations à plusieurs niveaux chez des personnes qui ne se rappellent même plus de leur date de naissance, mais qui se souviennent bien des paroles de chansons qui ont marqué leur vie.
Au contact de la musique, elle s'est complètement transformée. Soudain, c'était une personne avec une lucidité dans les yeux et avec une telle joie de vivre.
Ça produit un effet presque magique. Tu lui mets les écouteurs et dès qu'elle reconnaît quelque chose, elle change de façon radicale. C'est vraiment étonnant.
Ce projet qui se développe actuellement dans cette résidence de la municipalité de Cajar, dans la province de Grenade, a été sélectionné au niveau national dans le cadre du Think Big, un programme d'entrepreneuriat pour les jeunes. À terme, l'objectif est d'arriver à introduire ces nouvelles pratiques dans d'autres établissements pour personnes âgées.
La musique redonne l'humanité que la maladie enlève, écrivez-vous Barbara Tillman, Emmanuel Bigand dans cet ouvrage, La symphonie neuronale. C'est particulièrement saisissant dans ce reportage.
Oui, c'est tout à fait vrai ce que le reportage dit, et pour tout dire, je ne croyais pas tellement à ce genre d'effet magique, et donc avec des musiciens du conservatoire de Dijon, oui, nous sommes allés également dans les EHPAD et nous avons observé exactement la même chose. La musique redonne accès à sa propre identité, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser tant qu'on n'a pas de problème de mémoire, mais quand vous perdez la mémoire, vous perdez l'identité de vous-même, et ces patients Alzheimer, grâce à la musique, retrouvent une partie de ce qu'ils sont et ils se revitalisent. C'est le mot d'Oliver. Et ça, c'est vrai. Ce qu'on peut vous dire, c'est que lorsque vous faites de la musique live, c'est-à-dire que ce sont des musiciens et non plus des casques que l'on met sur la tête des gens, les effets sont 3 fois plus forts. Il y a eu des études là-dessus. Donc, c'est tout à fait important et je pense que ça ouvre des perspectives pour les musiciens, des pratiques musicales tout à fait nouvelles, et c'est vraiment important d'aller jouer la musique dans les EHPAD pour ces personnes-là, parce que c'est un accès à leur identité. Et c'est vraiment l'idée centrale du livre qu'on a voulu développer, c'est qu'en fait, la musique est indispensable sur le plan de la construction de la personne, parce que c'est celle qui contribue à votre identité.
Oui, vous dites que les bébés, au fond, ne parlent pas encore, mais ils chantent déjà. Les aînés ne parlent souvent plus, mais ils chantent encore. C'est vraiment ce qui peut nous relier à notre humanité. Quand on regarde ces reportages-là, j'imagine quand on fait de la musique dans un EHPAD, ça doit être aussi très fort. On voit les yeux s'illuminer, revitaliser. C'est vrai, on voit la vie et l'humanité
qui rejaillit, qui revient dans leurs yeux, dans leur attitude, dans leur corps.
Oui, c'est tout à fait. Ce que vous décrivez est tout à fait juste. Et c'est magnifique de voir, par exemple, quelqu'un qui a été mutique pendant trois séances, tout d'un coup, parce qu'on a joué une valse sur laquelle cette personne a vécu des choses importantes, se lever et se mettre à danser. Ce sont des effets, oui, de type miraculeux. Mais c'est vrai.
Barbara Tillman, vous voulez réagir ?
Oui, merci. Je voulais dire qu'on parle beaucoup de la mémoire épisodique et de l'identité, de la force de la musique sur cela pour cette maladie-là, mais je pense qu'il y a un deuxième exemple de la force de la musique qui est intéressant pour cette pathologie, c'est que ces patients qui ont des troubles de mémoire d'acquérir de nouvelles connaissances, ils sont capables d'apprendre des nouvelles chansons. Même si après ils ont une confusion de la source ou quand ils ont appris la nouvelle chanson, mais ils sont capables de la rechanter avec les paroles qui vont avec. Donc c'est un deuxième aspect qui est intéressant à mentionner. Il y a l'équipe d'Hervé Platel à Caen par exemple qui ont fait des études sur cela en comparaison avec d'autres matériaux. Donc c'est intéressant de voir aussi avec la mémoire plus à court terme ou d'apprendre des nouvelles connaissances qu'il y a un avantage de les réseaux neuronaux sous-jachant avec la musique, donc cognition, motricité, émotion, comme on a dit tout à l'heure.
Ouais, vous avez raison de le souligner, Barbara Tillman, c'est fabuleux. Il y a les allégros d'Alzheimer, hein, effectivement, où on voit des personnes atteintes d'Alzheimer qui arrivent à apprendre quelque chose de nouveau. Autour de la question pourquoi et comment la musique peut réveiller nos neurones, pallier à des déficiences neurologiques, des dégénérescences, à des troubles cognitifs, c'est tout le sens d'une nouvelle question soulevée par un de vos éminents collègues, Barbara Tillman. Emmanuel Bigon, c'est le professeur et chercheur en neurosciences Yonel Nakache de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui lui mène ses recherches plus particulièrement sur l'immense question de la conscience. Il était récemment notre invité. Écoutez sa question, elle est pour vous, peut-être plus particulièrement pour vous, Barbara Tillman.
Bonjour Emmanuel et Barbara. Une petite question pour vous deux. Comme vous le savez, on essaie d'explorer, d'ailleurs avec des collègues de Lyon, comme Jacques Luauté, les patients qui ont des troubles de conscience et vous-même travaillez sur ce domaine. Est-ce que vous pourriez donner aux auditeurs quelques éléments sur la manière de laquelle les stimulations auditives musicales particulièrement permettent parfois de moduler ou d'enrichir l'activité cérébrale de certains patients qui souffrent de troubles de conscience ?
Quels exemples pouvez-vous nous donner, Barbara Tillman, pour répondre à Lionel Nakache ?
Bon, il fait lui-même allusion au travail de recherche qu'on a commencé à mener à Lyon avec mon collègue Fabien Perrin et Jacques Luauté. Notamment, mes collègues se sont intéressés à troubles de la conscience depuis un moment et mon collègue Fabien Perrin, il s'est intéressé à l'importance de la science d'un matériel qu'on présente aux patients qui sont dans des états comateux et voit déjà une différence entre si on présente son propre prénom au patient et par rapport à un autre prénom quelconque. Donc comme on a commencé à collaborer ensemble, on a dit on va renforcer, on va essayer de voir est-ce que faire écouter de la musique que le patient aime ou aimait rapportée par les proches, bien sûr, avait des souvenirs particuliers importants, des musiques préférées, est-ce qu'on peut montrer ce que ce cerveau en état de détresse, dans cet état comateux, peut permettre de montrer ce que ce cerveau endommagé est encore capable de faire. Donc, on a pu faire des études maintenant, on a présenté des musiques préférées aux patients et après, on a mesuré des réponses électrophysiologiques à ces stimulations de prénom notamment. Et on a pu montrer qu'avoir écouté la musique que les patients aiment auparavant permet de renforcer l'activité cérébrale, la réactivité du cerveau à ces stimulus-là, à cette information auditive, par rapport à une situation contrôle qui n'a pas pas de musique.
Ça réanime, ça réanime un peu les. Enfin, quelque part, ça réanime quelque chose dans le cerveau.
Exactement, c'est comme si le stimulus musical est déjà traité par le cerveau du patient et permet d'arriver à un niveau d'éveil plus élevé afin de pouvoir traiter l'information auditive qui arrive ensuite à la traiter mieux que dans une situation de comparaison. Parce que ce type de population a bien sûr le trouble de la conscience, c'est que le nom indique, mais c'est de fortes fluctuations attentionnelles. Donc, si on arrive à analyser ce que le cerveau est encore capable de faire dans un moment où l'attention est présente, mm-hmm. on arrive à mieux déterminer dans quel état se trouve le patient, ce qui aide du coup aussi au diagnostic et au prognostic pour cette population-là, pour laquelle c'est toujours difficile de vraiment déterminer quel est le niveau de conscience qui atteint.
Jusqu'où nous entraînera hein, la musique justement pour même pour déterminer le niveau de conscience de patients dans un grand état de coma. Vous menez actuellement Barbara Tillman et Emmanuel Bigan des recherches pour le comprendre, même des recherches sur la musique comme antidote à d'autres dépendances, aux toxicomanies notamment. Sacré programme musical et cérébral qui fait appel. On va le voir aussi à notre circuit de la récompense. On y vient juste après avoir activé précisément notre circuit de la récompense, avec peut-être un des plus beaux morceaux d'Ismaël Lô, Tadjabone, sur RFI. Bonne sur RFI un peu plus et je me mettrai moi aussi à chanter Ismaël Lô autour de la question pourquoi la musique nous est essentielle, indispensable à notre humanité, au développement, à l'évolution de notre cerveau, de nos neurones. La musique nous porte et nous relie en humanité, on le comprend en vous écoutant, en lisant votre ouvrage La Symphonie Neuronale, mais vous allez plus loin. Barbara Tillman et Emmanuel Bigan, fort de toutes ces recherches, toutes ces découvertes, vous développez un projet de recherche en ce moment même avec l'hôpital de Dijon sur la dépendance et la toxicomanie qui pourrait un petit peu être, si ce n'est réglé, mais du moins dérivé grâce et par la musique. Emmanuel Bigan.
Oui. Nous développons ce programme-là avec l'hôpital de Dijon et avec avec le médecin Steve Duong, qui est musicien également. Et l'idée, si vous voulez, c'est que la musique, comme vous l'avez dit, on l'a découvert dans les 5-10 dernières années, a la capacité de stimuler le circuit de la récompense. Et les toxicomanes ont la mauvaise habitude d'activer ce système de la récompense par des produits licites ou illicites, parfois, qui, de façon chimique, vont activer ce réseau. Alors évidemment, ça donne une addiction et une facilité lorsqu'on a les produits sous la main d'aller avoir du plaisir sans passer par un comportement naturel qui peut aussi conduire à la stimulation du réseau de la récompense, mais c'est plus long. Et le fait que la musique a la possibilité d'aller stimuler cela nous donne la sensation qu'on doit pouvoir détourner en quelque sorte l'addiction de son objet premier en le ramenant vers la musique. Donc nous sommes en train de mettre en place un projet là-dessus. Nous sélectionnons des musiques addictives, c'est-à-dire des musiques qui ont des capacités, des caractéristiques structurelles que l'on a identifiées maintenant comme étant des musiques qui potentiellement vont aller stimuler ce réseau de la récompense, et nous proposons un travail de rééducation avec les patients, qu'ils soient alcooliques ou drogués, toxicomanes, en cure de désintoxication dans le cadre de cet hôpital, pour essayer d'aider en quelque sorte au sevrage et à la résolution de l'addiction.
Vous nous avez envoyé justement quelques extraits de ces musiques que vous avez étudiées comme addictives. On va en écouter une. Donc cet extrait du CD du groupe Panache Paradis, ça s'appelle évidemment Paradis. Emmanuel Bigan, pourquoi est-ce que ce paradis-là, hein, ce panache paradis, peut-il prendre la place d'autres paradis artificiels ? Pourquoi c'est une musique addictive ? Ben, ça marche, hein, tout de suite.
Oui, la musique addictive, il faut l'écouter sur 2-3 minutes.
Ouais,
parce qu'en fait, c'est une musique qui va développer, si vous voulez, un processus et qui va conduire vers une sorte de climax. Et cette syntaxe qu'on va dire, pour aller vite, la syntaxe du plaisir neurophysiologique et psychologique, la musique a les moyens de le mettre en œuvre. Ce groupe, Panache, a cette capacité-là de faire des petites sessions musicales de quelques minutes où il crée ce phénomène-là. Et donc, nous avons identifié ces morceaux de musique comme étant potentiellement intéressants parce qu'en très peu de temps, on peut avoir un effet de stimulation du système de la récompense de façon non invasive, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de produit chimique, mais la musique tient lieu de ce produit chimique. Alors que, évidemment, la gros avantage, c'est qu'elle est complètement innocente sur le plan chimique, donc elle fait de mal à personne. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de substituer en quelque sorte une prise de drogue ou une prise d'alcool par une prise de musique avec des morceaux de musique qui ont les caractéristiques potentielles, en tout cas, de stimuler le système de récompense.
Et oui, qui font monter, hein, des musiques qui font de l'effet. Alors,
qui font de l'effet, voilà.
Ouais, vraiment, et qu'on ressent tout de suite, effectivement, ça fait de l'effet, ça fait monter, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous dites, hein, je pense qu'on va en arriver en fin d'émission, vous dites, et c'est notre conclusion provisoire, mais vous dites que la musique, c'est une chance pour l'humanité. Emmanuel Bigan, Barbara Tillman.
Oui, alors bon, on n'a pas pu régler de façon définitive la question de savoir si c'était vraiment une nécessité biologique. Nous avons mis beaucoup d'arguments dans le livre pour dire que oui, mais à minima, c'est clair que c'est une chance, et ça, c'est une certitude. La musique, c'est une chance pour des tas de choses, hein, pour le développement de l'enfant, pour les régulations sociales, pour la prise en charge de la pathologie. Et vous voyez que là, avec le dernier projet, on s'attaque à des choses compliquées. La toxicomanie, c'est vraiment compliqué, mais on a des chances de réussir.
Merci beaucoup à tous les deux. Barbara Tillman, un petit mot peut-être en conclusion ?
Je ne sais pas, écoutez de la musique, faites de la musique.
Et voilà.
Du petit âge jusqu'au grand âge.
Absolument, et moi aussi parfois en concert, il m'arrive de me dire que c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut faire ensemble, nous les humains, de la musique. Merci infiniment d'avoir été en direct, en ligne avec nous tous les deux depuis Dijon, depuis Lyon, je ne sais même pas. Depuis Dijon tous les deux. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, original, inspirant, la symphonie neuronale, sous-titré « Pourquoi la musique est indispensable au cerveau », paru chez Humaine Science, à lire sans modération. Et en plus, dans les pages de fin, on peut même trouver la bande-son qui va avec. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous. Et
yes, autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter, bien sûr, à nous podcaster à volonté. Toutes vos symphonies neuronales, évidemment. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Autour de la question, jusqu'où nous entraîneront les virus ? Pas seulement pour le pire. Comme vous le découvrirez dans La folle histoire des virus avec une jeune virologue et vidéaste, Tania Louis, et le professeur Olivier Schwartz qui dirige le département de recherche virus et immunité de l'Institut Pasteur. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et en musique si possible. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.